Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes mardi 11 janvier 2022. Vous suivez bien la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. Cela fait 6 mois que les militaires burundais ne savent pas où passent leurs allocations familiales. Celles-ci sont coupées de leur salaire sans qu'on leur donne la moindre explication. Ils demandent de recouvrer leur dû. Instruire les militaires candidats commando par la bastonnade qui les mène jusqu'à la mort, c'est s'écarter de la bonne voie de l'instruction. C'est la remarque de Gratien Rukindikiza, ancien commando, après la mort de ce jeune candidat en pleine formation à Gitega. Et puis, cet acte macabre d'une dame qui a tué dimanche son nourrisson de ses propres mains, en commune Butihinda, province Muyinga, la meurtrière a été arrêtée hier. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Mais tout d'abord, ces inquiétudes du journal français Mediapart. Le journal s'interroge sur l'aide de Paris au Burundi. Il se demande s'il s'agit exactement d'une aide ou alors d'un double jeu de la part du gouvernement français dans la région des Grands Lacs. Selon ce journal d'investigation, la France a repris sa coopération militaire avec le Burundi en 2018, malgré une situation des droits humains catastrophique. Selon les rapports de plusieurs organisations, y compris la commission d'enquête des Nations Unies, les conclusions de l'enquête de ce journal en ligne ont été publiées le 9 janvier. Voilà donc 2 jours. Jean-Marie Ndabashinze a parcouru le document pour nous.
Alors que l'Élysée fait mine de poser un nouveau regard sur cette région, selon le journal spécialisé dans les investigations Mediapart, la France a repris discrètement la coopération militaire avec le régime de Gitega depuis l'an 2018, un pays où la situation des droits de l'homme demeure catastrophique. Mediapart décrit le parti CNDD-FDD au pouvoir au Burundi depuis 2005 comme un groupe animé par une idéologie raciste qui ne cesse de se dissimuler. Les actes de violence du CNDD-FDD sont désavoués et ont provoqué l'indignation au sein de la communauté internationale et la France n'a eu d'autre choix que celui de lâcher le CNDD-FDD qu'elle soutenait depuis sa naissance au Maquis après 1993, d'après ce journal français d'investigation. La coopération militaire entamée avec feu président Nkurunziza se poursuit avec son dauphin successeur Evariste Ndayishimiye. La présidence française n'a pas répondu à Mediapart si les questions relatives aux raisons, l'étendue et la nature de la coopération militaire franco-burundaise. La diplomatie française, appelée Quai d'Orsay, quant à elle, affirme qu'elle maintient son dialogue avec les autorités burundaises afin d'encourager l'ouverture politique actuelle visant à rompre avec l'isolement diplomatique du précédent régime. Le journal Mediapart s'étonne que le régime n'ait pas changé au Burundi, mais plutôt que l'avènement d'Evariste Ndayishimiye est perçu comme une continuité qu'une alternance. Mediapart fait constater que les crimes continuent à être commis de manière très dissimulée. Il cite le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi et rappelle que ce rapport a recommandé le maintien de la pression diplomatique sur le Burundi. Alors que les bénéficiaires parlent de la coopération militaire qui se fait en guise de préparation des militaires dans des missions de combat, le Quai d'Orsay parle d'apprentissage du français aux militaires burundais dans le cadre de la coopération. Mediapart termine ses publications sur les enjeux sous-régionaux de la coopération militaire française, surtout que le Burundi est souvent cité comme étant la base arrière de ce qui perturbe la sécurité au Rwanda. Mediapart ne laisse pas de côté l'incursion de l'armée burundaise et des miliciens Imbonerakure à l'est de la République démocratique du Congo.
Je vous le disais dans les titres, un nouveau-né a été tué par sa propre mère ce dimanche. Cela s'est passé sur la colline Wingoma, zone Butarugera, dans la commune Butihinda de la province de Muyinga. La dame avait mis au monde ce dimanche même. Elle est dans les mains de la police depuis ce lundi. Le point avec Benny Axelakana.
Sylvie Miburo est âgée de 31 ans. Après avoir mis au monde ce dimanche, il a égorgé son nouveau-né pour l'enterrer dans sa bananeraie, d'après une source sur la colline Wingoma. L'administrateur de la commune de Butihinda, Revocat Rubelandinzi, a été alerté par la population de la colline Wingoma et a arrêté la jeune femme pour la remettre au commissariat communal de Butihinda. Ce nouveau-né qui n'a pas eu la chance de vivre faisait la cinquième naissance de cette jeune femme. Sylvie Miburo est une veuve pour le moment. L'administrateur de la commune Butihinda appelle les femmes qui mettent au monde des enfants qui ne sont pas issus d'une union conjugale de respecter tout au moins la vie de l'être humain.
Merci Beni Axelakana. Les instructeurs du centre d'entraînement commando devraient mettre en avant la formation technique et non les bastonnades mortelles infligées aux candidats commando. C'est la réaction de Gratien Lukindikiza, un ancien officier qui est lui aussi passé par ce centre d'instruction commando de Gitega. Il le dit après la mort de 7 candidats dans ce centre. Gratien Lukindikiza reconnaît que même dans le passé, des candidats au centre commando étaient battus, mais pas jusqu'à la mort. On l'écoute.
C'est pas la première fois qu'il frappait. Il frappait bien avant, même après l'indépendance, parce que les colons aussi battaient les jeunes militaires. Mais ça continuait dans l'entraînement commando. Il y a toujours les bâtons. Il frappe fort, mais pas jusqu'à son niveau. Mais moi, personnellement, j'ai fait l'entraînement commando. Je vous dirais que j'ai été frappé. Bon, on a eu les séances des bâtons, mais pas à son niveau. Cela veut dire que, en fait, il y a l'entraînement qui n'est plus au niveau, qui n'est plus à la hauteur, et qu'on donne plus de valeur à frapper qu'à l'entraînement technique. Et cela, c'est une mauvaise chose. Je pense qu'ils vont rectifier, parce qu'en fait, même si dans les autres entraînements commando à l'étranger, ouais, il faut le reconnaître, même à l'étranger, dans des pays développés, on frappe les gens. C'est une façon de les habituer, des tortures ou aussi à des combats. Donc, rapprocher, mais on peut vraiment essayer de se spécialiser sur des choses, compétitivité, de combativité, pour que les militaires puissent se battre pour le pays, et non pas, il ne faut pas que les gens qui vont à l'entraînement commando se demandent s'ils vont mourir ou pas. Ça ne serait pas vraiment un entraînement commando, ça serait pratiquement un mouroir, un endroit ou un abattoir. Espérons que tout va changer.
Sachez qu'après la mort de ces candidats commando, une commission a été mise en place, mais selon des sources au sein de l'armée, les membres de cette commission ne se sont pas entendus sur ce qui s'est passé. Les uns disent qu'ils sont morts suite à une maladie, soutenant ainsi la thèse officielle, d'autres par maltraitance. En attendant, la commission a décidé de suspendre la formation. Les droits des détenus ont été bafoués au cours de la période allant de septembre à décembre 2021. L'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture dénonce des cas de traitement inhumain et dégradant dont ont été victimes certains prisonniers. Dans un rapport publié lundi, l'organisation fait remarquer que le non-respect des droits des détenus a souvent entraîné de lourdes conséquences. On écoute Jean-Claude Nivurumosi, chargé du département juridique à ACAT Burundi.
Les violations constatées sont essentiellement les traitements inhumains et dégradants, surtout dans les prisons de Mimba, Muramvya et Gitega. Les victimes sont des détenus accusés d'appartenir au mouvement rebelle, dont les 19 rebelles rapatriés à partir du Rwanda. Les auteurs sont l'administration pénitentiaire qui est aidée par les prisonniers proches du parti présidentiel, le CNDD-FDD. Et nous avons aussi constaté des traitements inhumains avec des mobiles et des détournements de vivres dans la prison d'Ormonge. Nous avons également constaté qu'il y a la problématique d'accès aux soins de santé est toujours récurrente. Nous déplorons d'ailleurs la mort de Gabriel Nyeshimana en date du 5 novembre 2021 dans la prison de Mimba. Nous parlons aussi des prisonniers de Mubanza qui connaissent des difficultés d'accès aux soins de santé à l'hôpital de Mubanza suite aux impayés. Le droit à l'alimentation a été cité aussi dans notre rapport parce que il a été constaté que dans les prisons, il y a eu un manque criant de stock de farine de manioc, la principale alimentation des prisonniers. Nous sommes revenus aussi sur l'incendie meurtrier dans la prison de Gitega, où il y a eu perte de vies humaines et des dégâts matériels importants, mais jusqu'à présent, il y a absence d'enquête sur la cause de l'incendie. Nous avons également parlé de la surpopulation carcérale. Nous avons terminé notre rapport en recommandant au gouvernement du Burundi d'arrêter et traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme en général et ceux des détenus en particulier, et mettre en place des mesures adéquates de prévention de COVID-19 et ouvrir une enquête indépendante pour connaître la cause de l'incendie dans la prison de Gitega.
Inzamba. Suite de cette édition, les réfugiés burundais vivant en Tanzanie sont enlevés, tués, chassés de force dans ce pays, puis emprisonnés dès leur retour au Burundi. Ce sont les propos de Manuel Nyangurutse, membre de l'UPRONA, non reconnu par le gouvernement burundais. Il indique que tout se passe avec la complicité des autorités tanzaniennes.
Le parti UPRONA s'étonne et s'indigne du fait que ce sont des agents du gouvernement tanzanien qui sont les auteurs de ces violations, de ces atrocités. Nous y remarquons des agents de la police nationale tanzanienne et des agents chargés de l'ordre interne des camps qu'on appelle les Basungusungu. Cela dénote en fait que le gouvernement tanzanien est au courant de ces atrocités et qu'il les soutient. Autrement, il les interdirait. Et le parti UPRONA, par ailleurs, dénonce la collision des deux gouvernements, tanzanien et burundais, parce que, au regard des bonnes relations qui existent entre les deux pays, et de nombreuses visites au niveau même du haut sommet, il se passe des choses aussi malsaines, des atrocités aussi monstrueuses dans les camps. Est-ce que cela ne proviendrait pas d'une entente bilatérale envie de forcer, n'est-ce pas, les réfugiés burundais à se rapatrier? C'est ça l'ennui.
Emmanuel Nyangurutse demande à la Tanzanie de respecter les conventions signées en rapport avec la protection des réfugiés et au Burundi de garantir la sécurité au lieu d'appeler les Burundais en exil à rentrer.
On rappelle au gouvernement tanzanien ses engagements internationaux. Lorsque ce pays estime qu'il n'est plus en mesure d'abriter les réfugiés, il ferait mieux de recourir à l'option de faire relocaliser ces réfugiés dans d'autres pays susceptibles de les accueillir. Le parti UPRONA également invite le gouvernement burundais à cesser, n'est-ce pas, de pourchasser les Burundais qui sont dans d'autres pays voisins qui ont fui la persécution, envisageaient plutôt, n'est-ce pas, leur établissement dans un régime de droits et libertés pour tous sans exclusive. UPRONA a également invité l'Organisation des Nations Unies, en particulier son agence en charge des réfugiés, l'OHCR, l'Union africaine, ainsi que la communauté est-africaine, a usé de leurs relations et influences pour amener la Tanzanie à respecter les droits des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Il n'est pas normal qu'après une si longue période, plus de 5 ans, que ces atrocités sont commises contre les réfugiés burundais, ces organisations restent muettes en dépit de leur obligation de protéger les droits de l'homme.
Grogne chez les militaires burundais suite à des coupes sur leur salaire depuis 6 mois. Selon eux, ils ne perçoivent plus leurs indemnités familiales et disent n'avoir reçu aucune explication sur ces coupes. Ils demandent à l'état-major de sortir du silence sur cette situation. Parfait Mudasigana.
Ces militaires expliquent qu'ils ont déjà donné depuis longtemps les documents identifiés à leur famille. Pourtant, selon eux, cela fait 6 mois qu'une coupe de l'allocation familiale est appliquée sur leur salaire sans aucune explication. Un de ces militaires indique qu'il déplore aussi le silence complice du chargé du travail et des travailleurs appelé G1 qui ne communique pas sur ce sujet.
Nous avons honoré leurs demandes. Jusqu'à maintenant, nous constatons que le retrait de l'argent continue sans que nous en connaissions la destination. S'il s'agissait d'une vérification, les informations sur nos enfants sont toutes dans leur machine. Nous déplorons le silence sur ces 6 mois alors que le chargé du travail des travailleurs était censé nous donner des explications. Nous regrettons également la misère que connaissent les familles des militaires parce que le militaire peut passer un mois au travail et à la fin du mois, il ne trouve rien sur son compte.
Ces militaires regrettent également le fait qu'ils ne sont plus conviés à des réunions avec surtout le chef d'état-major pour exprimer leurs doléances. Ils demandent aussi l'intervention du chef de l'État à ce sujet.
Nous n'avons pas les mots pour exprimer nos souffrances. Nous manquons d'espace pour exprimer nos doléances, car ils n'organisent plus des réunions dans des camps militaires. Nous sommes dans la désolation On peut passer 2 ans sans que le chef de l'État fasse une visite pour entendre nos doléances. Nous demandons que notre situation soit résolue. Nous apprenons que la situation des policiers a évolué positivement, mais chez les militaires, c'est le silence absolu.
La radio Nzamba a essayé de joindre par téléphone le colonel Folibert Biyereke, le porte-parole de l'armée burundaise, pour plus d'éclaircissements sur ce dossier, mais sans succès.
Parfait, Mudasigana, merci. Terminons par ce fait divers avec cet homme attrapé tout nu dans une maison où il ne vivait pas. C'était dans la nuit de ce lundi, dans la zone Gitaza, commune Muhuta, en province Lumongue. Les propriétaires de la maison ont aussitôt crié au secours et l'homme a été arrêté. Ce qui a inquiété les voisins, c'est que l'homme semble s'être introduit dans cette maison sans aucune effraction. La famille soupçonne un cas de sorcellerie. 2 personnes ont été arrêtées pour enquête. Vanessa Mouiteka nous en dit plus.
Selon des sources sur place à Gitaza, c'était vers 2h du matin lorsqu'une famille qui dormait a entendu quelque chose d'étrange qui tombe du toit de la maison vers l'intérieur de la maison. La femme s'est levée en premier et a constaté que c'est un homme tout nu dans leur maison. La famille a crié au secours et cet homme a été vite arrêté. Le passage de cet homme pour arriver dans la maison restait un mystère. L'entourage passe aux actes de fétichisme.
Il est rentré et les propriétaires de la maison l'ont attrapé. Ils n'ont pas pu connaître où c'est comment passer. Pas même une porte défoncée. Ils l'ont juste trouvé dans la maison et dans l'habit d'Adam. On n'a pas encore connu ce qu'il était venu faire. Mais maintenant, il est dans les mains de la police.
La police de la province de Lumongui confirme Sophie et annonce que cet homme a été arrêté pour mener des enquêtes sur lui.
Vanessa Mohiteka, c'est par là que s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba Gate Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.